cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Patrick Longo.
Bonjour Marc.
Patrick Longo, vous êtes l'un des membres de l'ensemble Syntonia. Vous avez déjà votre actif, je crois que c'est 5
ou 6. Oui, on a fait 5.
5 albums. Oui. Avec Syntonia, répertoire assez vaste, puisque ça va de. Il y a un album Schumann et Franck qui est sorti en 2007 et disponible depuis peu sur Cobuzz.
Oui.
Ça va jusqu'à la musique contemporaine, notamment Olivier Greff, que vous avez non seulement enregistré, mais que vous avez même connu. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Vous êtes le violoncelliste de cet ensemble.
Tout à fait.
Une passion qui commence très jeune, puisqu'évidemment, quand on met votre nom dans Google, ça c'est la magie aussi parfois un peu le boulet de Google, c'est qu'on envoie dans les premiers résultats de recherche une vidéo où on vous voit à l'école des fans de Jacques Martin, la mythique école des fans, en 1986, avec Frédéric Lodéon derrière en sorte de président, membre unique du jury. Vous en gardez quel souvenir de cette petite... séquence.
Bon, ouais, ça me rajeunit pas. J'avais 10 ans et demi, je suis passé dans l'émission de Jacques Martin. Et c'était à la demande de Paul Coens, qui était alors directeur du conservatoire de Brest dans lequel j'étais inscrit. Déjà, j'avais commencé le violoncelle à l'âge de 6 ans. Et donc Paul Coens connaissait bien Jacques Martin puisqu'il était régulièrement invité du Monde est à vous, de toutes les émissions et tout ça. Et à l'époque, Paul Coens tournait quand même beaucoup. Et faisait partie des orchestres assez en vogue à l'époque. Et du coup, je me suis retrouvé parachuté devant les caméras à jouer mon bac, à jouer les bourrées de la troisième suite. Et j'étais tellement intimidé que j'avais oublié le titre et j'ai sorti à Jacques Martin. Je crois que c'est ça que je joue. Ouais. Et il me regarde dans les yeux, il me fait j'en suis sûr. Et du coup, c'était un moment très fort. Ouais.
Surtout que vous avez terminé en disant que vous vouliez en faire votre métier.
Oui,
quand
bah il
vous pose la question.
Ça
donc voilà, donc ça, vous ça disiez la vérité. Alors vous avez dit que vous avez commencé à 6 ans. La question toujours qu'on est tenté de poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé vers le violoncelle? Pourquoi le violoncelle?
Alors quand j'étais petit, je répondais, on me posait déjà la question, je disais que c'était parce que je voulais être assis et que je voulais faire mes notes moi-même, parce que ma maman était pianiste, elle est toujours pianiste, et voilà, je voulais un instrument où je fabrique moi-même mes notes et où j'appuierais pas sur une touche. Bon, c'était une vision un petit peu réductrice du piano, voilà, mais voilà, je voulais aussi peut-être pas faire le même instrument que maman. Je l'ai un peu regretté plus tard, parce que le piano aussi, c'est très important de savoir... De connaître toutes les bases de l'harmonie, on se rattrape après par d'autres moyens. Mais oui, le violoncelle m'a toujours attiré pour toutes ses capacités expressives, bien sûr, ça c'est ce qui séduit lorsqu'on est jeune.
C'était lié à un choc, une écoute en particulier d'un disque, vous avez eu un concert, vous avez eu une sorte de révélation par rapport à ça?
Oui, non, c'est un ensemble de choses. J'avais la chance de pouvoir écouter tous les instruments de l'orchestre, étant donné que ma mère était accompagnatrice, et du coup elle accompagnait toutes les classes de violon, d'alto, de violoncelle, de hautbois, de clarinette et même de chant de l'école de musique de Brest. Et du coup, j'ai pu faire mon choix. Très jeune, il y en a, ils participent à des ateliers découvertes dans les conservatoires. D'ailleurs, on fait ça, le conservatoire dans lequel j'enseigne à Châtillon met en place des systèmes où, avant la première année, on se rend dans chaque classe, on écoute chaque instrument. Et on a comme ça, on peut choisir à cet âge-là vraiment l'instrument qui vous plaît le plus. C'est non pas parce qu'il y a de la place en flûte ou parce qu'il n'y en a plus en piano. Voilà, bien souvent, le piano et le violon sont très demandés. Après, les autres instruments font un petit peu queue de train. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir choisir. Voilà, parce que j'avais vraiment écouté tous les instruments de l'orchestre. Et c'est le violoncelle. Non, c'est un coup de foudre. On ne peut pas vraiment expliquer. C'était mon instrument et ça s'est pas démenti depuis.
Vous aviez des idoles à ce moment-là? Vous aviez un poster de Jacqueline Dupré au-dessus de votre lit ou de Rostropovitch ou...
Non, j'avais des compositeurs idoles. Les idoles instrumentales sont venues après. J'étais complètement fou de Jean-Sébastien Bach. Je crois que mon plus grand choc musical, c'était quand j'ai écouté pour la première fois La Messancy. Voilà, c'est très bizarre, hein, à 6, 7 ans, 8 ans, de tomber amoureux d'œuvres liturgiques comme ça, mais c'était aussi mon voilà, j'avais eu ce choc qu'on a lorsqu'on découvre qu'est-ce qu'on peut faire, quelles émotions peuvent susciter la musique savante, et ça a été une véritable révélation pour moi d'entendre la musique de Jean-Sébastien Bach. Et du coup, c'est ça aussi, peut-être, comme j'ai écouté les suites pour violoncelle après, de ce fait, qui m'a donné envie, je les ai pas mal entendues, c'est ça qui m'a donné aussi envie de jouer du violoncelle, peut-être.
Est-ce que ce que vous aviez dit à Jacques Martin, je vais en faire mon métier, s'est confirmé rapidement quand vous êtes lancé dans vos études, quand vous avez fait le conservatoire, c'était vraiment une voie qui, pour vous, il n'y avait que celle-ci?
Quand on grandit avec un savoir-faire, qu'on essaye de le cultiver et que c'est devenu quelque chose de normal et de naturel, on ne se pose pas la question. Alors j'aurais pu faire plein d'autres choses, pas plein d'autres choses d'ailleurs, j'aurais pu faire des choses artistiques comme le dessin, la peinture, mais pour moi c'est resté des hobbies, et vraiment le violoncelle, la musique, c'était mon moyen d'expression. Je ne me voyais pas continuer d'avancer sans la musique, donc ça s'est imposé comme ma façon de vivre. C'est pas de questionnement, j'ai jamais eu de questionnement. Bien sûr, j'ai eu une adolescence où, comme beaucoup d'enfants qui bossent très très tôt et qui sacrifient beaucoup de choses, j'ai peut-être un petit peu moins bossé à certaines périodes, entre mes 14 et mes 17 ans. Et puis après, il fallait rentrer au Conservatoire de Paris, j'ai mis les bouchées doubles. Enfin bon, voilà, j'ai un petit peu rattrapé le temps perdu, mais j'ai toujours consacré énormément de temps à la musique. Que ce soit en tant que plaisir ou en tant que passion, en tant que travail, c'était toujours ma priorité numéro un, oui.
Vous avez dit les idoles musiciens, musiciennes, sont venues après. C'était qui les premières révélations?
Ça a commencé par être des rencontres. Quand on est petit, bien évidemment, on est fan de ses profs. Et j'ai eu la chance de travailler très tôt, vers mes 13 ans, avec Jean-Marie Gamard, qui est le professeur au CNSM. Après, j'ai eu d'autres rencontres, Henri de Marquette, Christian Ivaldi. J'ai commencé à découvrir la musique de chambre au conservatoire, puis la musique baroque. Et là, je me suis ouvert à différentes façons de jouer le violoncelle. Et mes idoles, des idoles, je ne sais pas si on peut parler véritablement d'idoles, une fois qu'on a un petit peu dépassé les 14 et 15
ans. La puberté.
Voilà. Non, j'avais plutôt des posters de Michael Jackson dans la chambre à 14 ans que Jacqueline, même si elle est très belle. Mais après, ça a été des rencontres, des sources d'inspiration. Et mes choix musicaux actuels sont la conséquence de ces rencontres. J'ai eu la chance de travailler très peu de temps, trop peu de temps malheureusement, avec Christophe Coin au conservatoire. Et après, j'ai fait la connaissance de David Simpson, qui est le violoncelliste de William Christie et des Arts Florissants. Là, c'est ce qui m'a automatiquement décidé dans mon choix d'interpréter la musique ancienne sur instruments d'époque. C'est ce qui m'a poussé à faire de la musique ancienne. C'est pas la recherche historique, c'est que avec les moyens que j'avais à ma disposition et qu'on m'avait mis dans les mains, j'étais insatisfait. Je me retrouvais à jouer du Bach sur des cordes en acier trop tendues, je me rendais compte que c'était pas suffisant, que j'avais vraiment besoin de retrouver les conditions dans lesquelles on avait joué cette musique-là à l'époque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par baisser la pique, j'ai commencé par l'enlever carrément, j'ai baissé mes cordes d'un demi-ton et tenir le violoncelle entre les jambes, l'archer au milieu, et puis petit à petit j'ai fait la démarche et je me suis acheté un instrument baroque et j'ai vraiment bossé le style, oui. Comme la musique de chambre, c'était des rencontres, c'était avec mon pianiste Romain David, avec qui on était en musique de chambre au CNSM en sonate dès la première année. Et après, j'ai rencontré mes partenaires violonistes qui étaient également en scolarité avec moi au conservatoire, Pascal Audon et Mathieu Godefroy. Et voilà, la rencontre des quatre, on s'est adjoint Anne-Aurore Ranstedt aussi à l'Alto de l'Opéra de Paris. Et c'est une histoire de famille, voilà, c'est que des rencontres. Et c'est ça qui m'a fait accorder aussi la priorité à la musique de chambre pendant un certain temps. avec l'ensemble Syntonia, et qui a amené la rencontre avec Olivier Greff, qui s'est faite d'ailleurs par l'intermédiaire d'Henri de Marquette, avec qui je travaillais, qui nous a poussé à faire le cycle de perfectionnement chez Christian Ivaldi, et puis voilà, et puis tout. Après, ça fait boule de neige.
Quand on lance un ensemble, donc Syntonia est né, je crois, en 99,
oui.
On a une feuille de route, on a déjà, on sait où on veut aller, ou finalement on construit le bateau et on se jette à la mer et on verra un petit peu. Vous aviez quand même déjà une visibilité de ce que vous, par rapport au répertoire, par rapport à vos envies.
Bah, le répertoire, de toute façon, il s'est imposé par la formation, parce que je voulais absolument travailler avec Romain, et on ne voulait pas faire du trio, on voulait vraiment... avoir une esthétique qui se rapproche quand même de celle du travail du quatuor à cordes. Et donc le quintet avec piano a décidé du répertoire. C'est là qu'on a abordé les grandes œuvres comme le quintet de Schumann, de Franck, de Dvorak, de Brahms, et aussi d'autres moins connus. Je pense notamment à Ernst von Dornani, dont on a défendu beaucoup la musique à une certaine période. Ça nous permet aussi de faire de la géométrie variable. Avec notre pianiste, souvent le quintet avec piano ça fonctionne selon le système un quatuor à cordes constitué avec un son qui lui est propre et on lui adjoint un pianiste. Donc, ça fait des fois des rencontres très, très heureuses avec des pianistes et des quatuors qui ont vraiment l'habitude de travailler ensemble, mais de façon ponctuelle pour des projets précis. Soit ça donne des rencontres parfois un tout petit peu moins heureuses. Nous, notre pianiste, on essaye de faire le maximum possible de concerts avec lui. Alors des fois, pour des raisons qu'on peut comprendre, surtout dans la période actuelle, les festivals rushing à prendre un piano, parce que ça coûte cher, parce que... Voilà. Mais voilà, on préfère, à la limite, parfois, on préfère venir à quatre, sans un violon, même si on les adore. On préfère venir en quatuor avec piano plutôt que venir en quatuor à cordes pour pouvoir continuer à jouer avec Romain, parce que notre son, c'est vraiment le son... d'un quintet, d'un ensemble de musique de chambre avec piano, et ça fait 11 ans qu'on joue ensemble, et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ensembles quand même qui fonctionnent comme ça. C'est ce qui fait un petit peu notre particularité.
Thank you.
Alors revenons justement, on a prononcé son nom plusieurs reprises, Olivier Greff.
Oui.
Vous connaissiez bien sa musique quand vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé? Et après on pourra peut-être aussi dériver sur la particularité plus qu'intéressante pour des interprètes de travailler avec un compositeur vivant, donc contemporain.
Oui, alors Olivier, on a été contacté en catastrophe. C'est donc Henri qui le connaissait très bien, qui avait créé son concerto pour violoncelle. Qui m'a appelé en disant il faut que je te présente Olivier Greff, il est en urgence, il est un petit peu dans la merde, il doit créer son quatrième quatuor dans 2 mois et il n'a pas de quatuor, voilà. Et tous les quatuors qu'il a contactés étaient soit pas libres, soit en voyant la difficulté de la partition, on baissait les bras, on déclarait forfait ou d'un seul coup n'était plus libre. Bon, j'ai dit bah vas-y, envoie. On va voir ce qu'on fait. Et il nous a envoyé la partition, et enfin il nous a pas envoyé la partition tout de suite d'ailleurs, j'ai pris contact avec Olivier, on a dit d'accord, c'était pour les rencontres musicales de l'Abbaye de la Pré et les moments musicaux de l'Abbaye de Noirlac, il y avait 2 concerts de suite pour créer son quatuor, et c'était pas seulement la difficulté, c'était aussi la longueur du quatuor qui je pense avait rebuté d'autres quatuors. Parce qu'il fait 55 minutes le quatuor, voilà. Et c'est titanesque, il est en 7 mouvements, il a appelé son quatuor Ulysses en anglais, en hommage au roman de James Joyce qui lui-même est titanesque. Je l'ai pas, j'ai essayé de le lire, je dois avouer que j'ai craqué. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais c'est d'une densité incroyable, et tout comme le voilà, Joyce voulait faire une œuvre monde, et Greff était très admiratif de ce concept, et du coup il a voulu aussi faire un quatuor qui était une œuvre monde. C'était une espèce de résumé de toute la musique qu'il aimait. Il y a de la musique yiddish, il y a de la musique balinaise, folklore balinais, il y a même une danse qui s'appelle le bourbonnais, une chose très très rare dans la musique d'Olivier. Et du coup, on n'a pas eu la partition 2 mois avant, mais on a eu la partition 2 semaines avant. Donc, on a déclenché le plan hors sec, on s'est enfermé, on a fait que du quatuor, on est allé à Villecroze, en résidence avec Christian Ivaldi, à l'époque, chez qui on était encore en études au conservatoire. Et on a fait que du quatuor. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec Olivier, on a eu un choc, parce que nous, en bon petit quatuor, bien habitués à travailler de façon classique, on avait préparer des effets, des nuances, parce qu'on a regardé les partitions d'Olivier, c'est plusieurs, on peut y avoir 5 pages fortissimo, voilà, ça lui fait pas peur, c'est un truc très impressionnant et qu'on comprend pas la première fois qu'on lit une musique d'Olivier, c'est une musique d'une densité absolument incroyable, et nous on s'était dit on va quand même essayer d'apporter des plages de repos, des choses comme ça. Et en fait, il nous a poussé au maximum et c'est limite. Il a essayé, il nous a vraiment pas lâché. Et il nous a obligés à donner le maximum qu'on avait. Et parfois, physiquement, c'était même très dur parce qu'on en avait qui étaient au bord de la tendinite.
Le fait de l'avoir rencontré à un moment où vous étiez encore en formation, même si un musicien est toujours, j'allais dire, d'une certaine manière en formation, jusqu'à la fin de ses jours, est-ce que ça vous a fait appréhender votre instrument et la vision que vous aviez de la musique différemment ?
Alors, on a eu des réactions diverses à l'intérieur du quatuor. Il y en a qui ont plus ou moins adhéré à sa personnalité. Bon, pour ma part, ce que ça m'a apporté de rencontrer Olivier, c'était le fait de prendre parti. C'était le fait de pouvoir, de rencontrer quelqu'un qui est encore vivant et qui écrit sa musique et de façon anti-académique. Ça montrait qu'on pouvait. Ça m'a appris, j'avais 22 ans, je crois. Ça m'a aiguillé dans le sens à faire mes choix et à les revendiquer et à les assumer et à pas forcément jouer ce qui passe. Je sais qu'il y a certaines musiques qui me. Enfin, même si j'aime les écouter, que j'aime pas jouer. Donc, lorsque je choisis une musique, qu'elle soit contemporaine, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit classique, moderne ou même. Populaire, où ça m'est arrivé de jouer de la musique traditionnelle traditionnelle celtique par exemple avec une copine harpiste, ça m'apprend à laisser mes goûts. Alors attention, faut pas que ça soit non plus quelque chose de primaire et de dire ah j'aime bien, je vais jouer ça. J'essaye d'être le plus étoffé, le plus documenté possible et que ça soit quand même culturellement pas instinctif, mais voilà, j'essaie de compléter ma culture musicale le plus possible. Mais quand je choisis une musique que je veux jouer, oui, c'est parce que c'est mon goût qui détermine que je vais aller vers ce compositeur, et non pas parce qu'il faut jouer ça en ce moment, non pas parce que c'est le compositeur qui est à la mode, voilà. J'essaye de faire en sorte que ça soit mes goûts qui orientent mes choix musicaux.
Est-ce qu'un interprète se doit de jouer la musique de ses contemporains? Il y a une sorte de mission, il y a une part de mission, c'est ou pas spécialement?
Je pense qu'on a un rôle de passeur qui est choix sur chacun de nous, dans le sens où chaque compositeur se doit d'être entendu, mais il se doit d'être entendu par quelqu'un qui croit en sa musique et qui la défende. Comme si c'était lui qui l'avait écrite. Donc si je défendais pas si je croyais pas dans la musique que je défends, que je joue, je serais pas sincère et l'auteur serait pas, il aurait pas ce qui lui revient. Notre rôle est très important parce que à l'époque baroque, les compositeurs étaient pour la plupart tous instrumentistes. Et ils jouaient de plusieurs instruments et ils jouaient souvent leur propre musique. Alors ils étaient bien souvent joués aussi par d'autres, mais ils avaient toujours un accès direct à leur musique. Ils la ressentaient. Bach jouait du clavier, du violon, de tous les instruments possibles. C'est la même chose pour Vivaldi, la même chose pour tous ses contemporains. Et maintenant, c'est plus le cas. Je ne dis pas que les compositeurs ne sont pas des instrumentistes, mais ils ont rarement l'occasion de la jouer eux-mêmes en concert. Ce sont parce que, primo, la musique écrite est de plus en plus difficile, techniquement parlant, et la composition demande de s'y consacrer pleinement, et puis bien souvent, les compositeurs aussi doivent faire un autre métier à côté. Il y a très très peu de compositeurs qui vivent de leur composition uniquement. Ils sont souvent directeurs de conservatoire, ou alors ils sont souvent professeurs d'anise, ou musicologues. Et rarement concertiste, parce que concertiste, ça demande une énergie, ça demande de s'y consacrer pleinement. Et chose qui n'arrivait pas, chose qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, le rôle de l'interprète est d'autant plus primordial que sans lui, il y a plus cette transmission.
Thank you.
vous avez donc signé 5 albums avec l'ensemble. Comment se choisissent les œuvres qu'on décide d'enregistrer, de graver pour l'éternité? J'imagine que parfois il y a des rencontres, ce qu'on a dit en partie tout à l'heure sur Olivier Greff. Ouais. Et comment se fait le choix, par exemple, si on prend l'exemple de l'album de 2007, le Schumann Franck, est-ce qu'on va parfois vers des pièces qui sont peu enregistrées, ou au contraire, on préfère aller se confronter à des choses qui ont été très enregistrées? Comment ça fonctionne, ce choix?
On a travaillé pendant très longtemps les quintettes de Schumann et Franck. Et y a un moment donné où on ressent vraiment le besoin d'aller jusqu'au disque. Parce qu'on est... On est tellement familiarisés ensemble, on est tellement convaincus de notre façon de jouer. Enfin, c'est pas du tout prétentieux ce que je dis. Il y a un moment donné où on sent que c'est le moment d'y aller. Voilà. Et quand on sent que c'est ce moment, on y va. Et on a tout fait pour. Et l'occasion s'est présentée. Et alors on a pris un gros risque parce que les quintettes de Schumann et de Franck sont très enregistrées. Et on ne l'a pas regretté parce qu'on est encore aujourd'hui assez content de ce qu'on est arrivé à faire pour le disque. Et comme d'habitude, il y a encore des choses qu'on pense encore différemment maintenant, 4 ans après l'avoir enregistré. Mais cette étape de l'évolution de notre interprétation des quintettes de Schumann et Franck, on en est fiers, on en est très contents, et c'est notre vision des choses. Pour les disques Olivier Greff, les deux disques qu'on a enregistrés, le premier, c'était parce que la rencontre avec Olivier était tellement forte, et en plus le sort a voulu qu'il décède 2 mois après la création du Quatuor Ulysse. C'était une évidence pour nous qu'on devait aller jusqu'au disque. Après ce qui s'était passé, après cette rencontre, et puis après le fait qu'il nous quitte, on s'est senti le devoir d'aller enregistrer ce quatuor, parce qu'on n'était pas les légataires, mais on était les derniers à avoir joué cette musique, les premiers à avoir joué cette musique, et les derniers à lui avoir joué sa musique de son vivant. Donc on ressentait également le besoin d'aller enregistrer ça. Quant à la bataille d'Agincourt, pour 2 violoncelles que je joue avec Agnès Westermann et le 4e quatuor à cordes sur 3 sonnets de Shakespeare, quatuor avec voix d'ailleurs, avec le baryton Alain Buet, ce quatuor à cordes, ce disque a été enregistré pour célébrer les 10 ans de sa disparition, et c'était d'ailleurs l'occasion pour nous de travailler pour la première fois avec le label Zigzag Territoire. Et c'était une espèce de, pareil, d'évidence, parce que ces deux œuvres, à chaque fois, avaient occupé une place particulière dans les choix qu'on a fait dans nos concerts, dans notre parcours musical. La bataille d'Agincourt, je l'avais jouée, j'avais connu cette pièce grâce à Yves Petit-Devoise, qui nous avait fait jouer au Festival de Deauville et qui avait organisé un petit concert en hommage à Olivier très peu de temps après sa disparition. Il m'a dit, il faut absolument que tu connaisses cette partition, viens jouer ça. J'avais joué ça à l'époque avec Anthony Leroy, le violoncelliste, et on avait joué le 3e mouvement, qui est une mélodie superbe sur des thèmes sur un thème juif du ghetto de Varsovie. Et c'est pareil, cette partition m'a tellement touché que j'ai voulu bien évidemment la jouer, l'enregistrer en entier. Et ça s'est fait avec ma partenaire de musique de chambre. Enfin, c'est rare que deux violoncellistes s'entendent au point de faire un duo, et ça a été le cas avec Agnès Westermann, que j'avais rencontré dans d'autres conditions. On était en pédago au CNSM, on passait le CA. Et on était les deux seuls violoncellistes, et du coup c'était une amitié très forte, et qui nous a amenés à jouer ensemble. On a créé d'autres musiques, on a créé des musiques de Philippe Forget, de Régis Campo, qui ont toutes été enregistrées aussi par la suite. Et cette bataille d'Agincourt, on l'a jouée, on l'a défendue, on est allé jusqu'au disque, et ça a été pour nous encore une façon de rendre hommage à Olivier 10 ans après sa disparition.
Justement, c'est vrai que c'est un compositeur, vous l'avez bien décrit tout tout à l'heure son univers, sa musique. On a reparlé un petit peu justement avec cette histoire de 10e anniversaire, cette célébration. Mmh. Mais ça reste quand même un compositeur malheureusement encore un peu trop, pas obscur, mais encore peu joué, encore peu enregistré. Qu'est-ce qui fait vous penser justement ce que vous avez décrit tout à l'heure, ce côté un peu, cet immense océan musical, comment vous interprétez le fait que, vous expliquez le fait que justement il soit encore aussi peu joué?
Il était peu joué de son vivant. Il a eu une période d'ailleurs où carrément il s'était retiré de la scène musicale. Pendant au moins une quinzaine d'années, il avait fait une retraite spirituelle. Et voilà, le milieu ne fait pas que on va quand même continuer à jouer les compositeurs de leur vivant s'ils ne sont pas là pour défendre leur musique. À la rigueur, il y a des gens qui le font quand vous êtes mort, mais quand vous êtes vivant, personne ne va dire « Vas-y, repose-toi, on va jouer ta musique ». Et Olivier n'était pas très très combatif. Il voulait, c'est sûr, vivre de sa musique, il y arrivait quand même. Et c'était une personne qui voulait de la sincérité dans tout ce qu'il faisait. Il aurait pu essayer d'avoir... Il a toute sa vie été édité chez Triton, qui est un label formidable d'ailleurs, mais il n'a jamais vendu 15 000 exemplaires de ses disques. De chaque disque, lorsqu'il les sortait, il le faisait vraiment. C'était une démarche artistique et non pas commerciale de sa part de faire des disques et d'enregistrer sa musique. Et lui, il s'en souciait peu. Il avait un petit éditeur, il avait une petite maison de disques. Et ce qui s'est fait à la rigueur, c'est fait malgré lui. C'est les gens qui ont dit mais Olivier, ta musique, elle est géniale. Il faut absolument que tu fasses ci, il faut absolument que tu fasses ça. Va voir telle personne. Et on en est arrivé quand il est décédé, à la création de l'association Olivier Greff, et où il y a énormément d'activités qui ont été menées en 10 ans par cette association, et ça aboutit à des cérémonies d'anniversaire qui étaient quand même assez remarquables. Il y avait présence de Radio France qui a joué plusieurs de ses œuvres, qui ont été filmé, enregistré, radiodiffusé. Son concerto est joué quand même son concerto pour violoncelle est joué quand même relativement souvent, chose qui est rare après les créations, et surtout quand l'auteur n'est plus là pour le défendre. Et tout simplement, ce qui fait que ça commence à marcher pour sa musique, c'est tout simplement parce qu'elle est bonne. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de chercher de raison à côté. Sa musique parle d'elle-même. Et oui, c'est encore pas ce que ça devrait être pour du goût de ceux qui aiment vraiment sa musique, mais ça commence à venir.
Qu'est-ce que vous avez comme envie ou comme projet avec l'ensemble au disque? Est-ce que il y a des œuvres que vous aimeriez justement qui ont peut-être eu le même parcours par rapport au parcours de l'ensemble que les quintettes de Schumann et de Franck, que vous aimeriez aussi également immortaliser?
Alors oui, c'est ça, c'est... Je reprends. On a mûri également le quintet de Dvorak qui nous accompagne depuis nos études au conservatoire. Je crois même ça a été le premier quintet qu'on a travaillé.
Vous le jouerez le 5 février à l'auditorium de Châtillon, si je ne m'abuse.
Et oui, et on le jouera également en mars à Lyon, à la Société des concerts de musique de chambre, à la salle Molière. Et ça fait partie des œuvres qui nous ont accompagnés toute notre vie de chambriste. Et oui, on va tout faire pour enregistrer le quintet de Dvorak le plus rapidement possible. Et on aimerait aussi également beaucoup enregistrer les quintettes de Ernst von Dornani, qui pour nous fait partie de ces oublis du XXe siècle. Et là, on sait maintenant... preuve à l'appui que sa musique a été occultée pour raisons politiques dans les années 50-60, suite au printemps de Prague. Donc, on ne connaît de lui que sa sérénade en trio et quelques pièces pour piano. Et en fait, sa musique de chambre regorge de trésors, les quintettes, sextuors, sonates pour violoncelle, sa musique orchestrale est magnifique. Et on va, oui, on va aussi enregistrer ces quintettes dans un futur proche.
Projet cette fois-ci à la scène avec l'ensemble, prochainement des concerts déjà de prévus.
Oui, on doit donc jouer à la salle Molière, je sais pas si vous avez la date devant vous.
À l'auditorium de Châtillon le 5 février,
voilà.
Et à Saint-Brieuc le 9 février.
Saint-Brieuc, on va jouer en trio à cordes cette fois-ci. Puisque à toute exception, il y a toujours une règle, oui, on joue aussi sans Romain. Et avec grand plaisir. Et on jouera en trio à cordes la sérénade de Dornani, justement. Le trio en do mineur de Beethoven. Et on va en jouer deux, donc je m'embrouille les pinceaux. On va jouer une pièce pour trio d'Edith Canachisi qui s'appelle Tiempo. Et Edith Canachisi sera également dans notre concert de Châtillon où on va jouer cette fois son quatuor plus violoncelle principal, donc c'est un quintet qui s'appelle Falaise, avec François Salk qui va se joindre à nous, et également pour un quintet à deux violoncelles de Schubert cette fois-ci.
Comment vous voyez le paysage chambriste en 2012 ? Les modes, il y en a partout, même dans la musique, même dans la musique classique. Vous êtes dans ce milieu depuis un certain temps maintenant, même si votre ensemble est encore jeune, et vous aussi. C'est comment, quand on se retrouve comme ça, dans un tel répertoire, comment vous voyez son évolution depuis que vous êtes lancé dans cette carrière ? Aussi bien au niveau du public qu'au niveau, j'allais dire, des interprètes, des institutions, des maisons de disques, des producteurs, etc.
Ça fait beaucoup de questions.
Ouais, c'est vrai.
C'est un vaste sujet. La musique de chambre, c'est toujours bizarre parce que c'est vachement fluctuant selon les modes. Par exemple, la grande mode, c'est, mais à juste titre, de jouer le répertoire romantique sur cordes en boyau, sur instruments d'époque. Et on a un petit peu tendance à laisser de côté les instruments, les groupes de musique de chambre, à part les gros, gros, gros quatuors à la Ebène ou à la Psophos, qui n'ont plus besoin de se faire un nom. Les jeunes ensembles de musique de chambre ont un mal fou à se faire connaître s'ils jouent pas sur instrument d'époque. Alors oui, c'est évidemment que c'est une super démarche de jouer sur instrument d'époque, tout ça machin. Je crois qu'il faut quand même pas oublier une chose, c'est que au XXe siècle, on jouait quand même, il y avait plein de façons différentes d'habiller son instrument. Les cordes en boyau et les cordes en métal se côtoyaient. Le tout métal n'est arrivé qu'en 1950 ou 60. Il y avait les boyaux fils, il y avait les boyaux purs. Bien souvent, on jouait la musique avec même au 19e siècle, il y avait les orchestres étaient remplis d'instruments qui étaient joués de façon, enfin avec une facture hybride. Il y avait des archets classiques, il y avait des archets romantiques, il y avait on était beaucoup moins figé que maintenant. Et alors ce truc de faire sur instrument d'époque, et limite il faudrait qu'on ait comme ça change à peu près tous les 15-20 ans, la facture instrumentale, faudrait que entre 1920 et 1930 ou 40, enfin non, là c'est un mauvais exemple, mais entre 1820 et 1860, il faudrait avoir un instrument, il faut avoir un autre instrument si on prend la période d'après. Et finalement, ça devient un tout petit peu totalitaire parce que c'est devenu un phénomène de mode. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier avant tout d'écouter les interprétations des ensembles, il ne faut pas écouter que c'est la musique d'abord qui prime et non plus le fait de jouer sur un instrument d'époque. Par rapport au paysage de la musique de chambre actuelle, bien sûr, on observe, et c'est triste à dire, on observe une récession, on observe que de plus en plus de festivals sont obligés de réduire leur nombre de concerts ou de mettre la clé sous la porte. Bah, évidemment, c'est super inquiétant, surtout lorsqu'on voit aussi que ça commence à toucher certains orchestres. Bon, loin de politiser le débat... je crois qu'il serait temps que l'État fasse quelque chose pour commencer à aider certains orchestres ou certaines institutions, et peut-être pas de mettre tous les œufs dans le même panier, comme c'est un petit peu le cas en ce moment avec... bon, on va pas relancer le débat, mais sur certaines salles qui coûtent très très cher au détriment des subventions accordées pour les petits festivals de province. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Pour ne citer personne.
Ouais. Quand il vous reste du temps, vous êtes quel type de mélomane ? Vous écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Vous êtes une sorte de glouton de musique ? Ou vous avez plutôt des phases ou...
J'écoute généralement la musique que je joue, et j'essaye de me baigner complètement dans la période stylistique du compositeur que je suis en train de jouer. Et j'écoute beaucoup aussi de musique pop ou traditionnelle ou jazz. Je suis assez éclectique, mais voilà, j'essaye de pas écouter que du classique. Et j'y arrive bien d'ailleurs. Mais bon, voilà, je vois sur la page d'accueil de Cobuzz qu'il y a un album de Prince, et j'aime bien Prince, par exemple. Mais bon, voilà, j'aime bien toutes sortes de musique du moment qu'elle est bien faite. Voilà. Ouais, je suis un petit peu glouton de musique. Voilà.
D'autres projets, même à titre personnel, en dehors de l'ensemble ? Parce que c'est vrai que vous faites aussi des piges, comme on dit de temps en temps ailleurs. Vous ne jouez pas qu'avec l'ensemble Syntonia.
Ah non, 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 mais c'est, l'ensemble Syntonia, c'est même c'est... 40% de mon temps. Voilà. Je fais, bien sûr, beaucoup de baroque. Je joue pas mal avec Nathalie Stutzmann et l'Orfeo 55. On va enregistrer bientôt un programme de cantate de Bach chez Universal, et donc on a pas mal de concerts qui découlent de ça. On a aussi fait toute la promo du disque Prima Donna, des airs des castrats de Vivaldi, et j'ai également beaucoup de projets personnels. Oui, je dois jouer le concerto de Haydn en Ré au Quartz et à la cathédrale de Quimper en juin avec le Collegium Orpheus. Il y aura une petite tournée après qui va découler de ça. Je joue en septembre avec Yestine Davis, le contre-ténor Yestine Davis et la claveciniste Aline Silbereich au Festival de Froville. On va donner également ce programme, un programme Bach pour violoncelle piccolo, et on a un petit truc assez original. On va jouer les sonates pour violon de Bach, pour violon et clavecin. 1014 BWV, je dis toujours BMW, BWV 1014 à 1019, qui sont écrites pour le violon. C'est des sonates en trio, mais seulement pour violon et clavecin. Je les joue sur violoncelle piccolo, c'est-à-dire violoncelle à 5 cordes. Et on va les donner sur Paris, à Notre-Dame-des-Billettes, dans la saison de Philippe Maillard, en novembre. Et ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Déjà pour le fait de travailler avec Aline, parce que c'est vraiment une claveciniste incroyable. C'est quelqu'un de très enrichissant, qui m'apporte beaucoup, qui m'aide vraiment à... Bac, c'est dur parce que on a besoin d'être vieux avant l'âge et en même temps de garder sa fraîcheur. Et Aline m'aide à rentrer direct dans le cœur du propos, et pour ça c'est une partenaire et une amie très précieuse. Et donc on va jouer ces sonates, on fait un gros sacrilège, on les joue au violoncelle, mais voilà, violoncelle piccolo à 5 cordes avec une corde demi, ce qui me permet de jouer aussi le violoncelle piccolo. Ça permet de jouer pour un violoncelliste par exemple le répertoire du violon, de la flûte, de la viole de gambe, jusqu'à Carl Philipp Emanuel Bach, jusqu'aux dernières œuvres pour viole de gambe par exemple.
Donc un programme bien, bien chargé finalement, jusqu'à
ouais.
la fin de l'année. Donc on vous souhaite
oui.
Bon courage pour ce programme. Merci Patrick Langot.
Merci Marc.
radio@buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.